Bien, je suis très heureux d'être avec vous. Ça faisait déjà quelque temps, c'est vrai, que j'étais venu en visite, mais c'est toujours une joie pour moi, mon épouse, qui m'accompagne aujourd'hui, de pouvoir ainsi communier, partager avec des frères et sœurs. Alors, grand rang. Quelqu'un connaît grand rang, enfin, c'est où c'est? Ah! Ah, ah oui, alors forcément. Oui, toi, quand on dit que l'île, déjà, on se situe mieux. Enfin, en tout cas, c'est près de la France. On est à 100 mètres de la frontière française, enfin, le local de l'Assemblée. Et ce qui sépare la Belgique d'avec la France, c'est une rivière. Et ça ne s'invente pas, ça s'appelle la Trouille. Hein, mais, pour ceux qui habitent Mons, ben, elle passe aussi à Mons, donc voilà. Elle prend sa source là, pas loin de chez nous. Enfin, nous, ça nous a pas fait peur. On s'est installé là-bas. Alors, nous sommes maintenant depuis 9 ans. Les années passent. On se rend compte aussi que les années passent, les familles grandissent, 5 petits-enfants. Donc voilà, nous sommes heureux là-bas. Le Seigneur fait son œuvre lentement, mais sûrement. Nous avons beaucoup de contacts avec des groupes qui sont présents sur place et qui me demandent régulièrement d'aller prêcher. C'est une occasion pour moi de pouvoir annoncer l'Évangile. Je vous invite à lire un passage, je dis souvent bien connu, mais de ceux qui le connaissent, bien sûr, Matthieu chapitre 5. À partir du verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il y a plusieurs interprétations pour aborder les béatitudes. La compréhension idéaliste, c'est-à-dire qu'on y voit là que quelques règles d'éthique qu'il faut s'efforcer d'appliquer. Puis certains pensent que ces béatitudes ne peuvent être réalisées que dans un temps particulier, par exemple dans le millénium. Alors je n'ai retenu aucune de ces interprétations. J'ai voulu l'aborder sous le thème du témoignage de la vie de Christ avec son Père, c'est-à-dire le style de vie de Jésus en communion avec son Père. Ben même en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons ces choses à la dimension de pécheurs. Certes, Jésus habite en nous, mais nous restons des humains. Tout le problème, le combat que, et j'espère ne pas être un extraterrestre, que nous vivons au quotidien, c'est d'enterrer la vieille nature pour laisser surgir la nouvelle. Mais il y a quelqu'un qui veille pour que soient maintenues ces caractéristiques de l'ancienne nature, c'est l'ennemi de nos âmes. Il y a dans ce chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, tout d'abord la qualité personnelle du disciple, c'est-à-dire ce que dans sa vie au quotidien, sa relation avec Dieu fait sa progression spirituelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'il assimile dans sa relation avec Dieu. Et ce chapitre 5 nous montre un deuxième volet, le comportement du disciple. C'est-à-dire, comment l'exercice de ce qu'il a acquis va se manifester sur le terrain. La première béatitude, ben, c'est vrai qu'elle surprend, heureux les pauvres en esprit. Jésus, bien sûr, nous le savons, n'a pas dit heureux les pauvres d'esprit. Heureux les pauvres en esprit. Et je me souviens d'un exemple que j'ai entendu d'un père qui était dans son bureau, et puis son fils entre dans son bureau, il lui demande « Papa, il me manque de la colle ». Son père, pendant le tirard, il lui donne la colle, son fils sort, et puis il y a quelque chose qui lui semble pas normal dans ce comportement, il ne m'a pas dit « S'il te plaît ». Ça lui a semblé étonnant et il a essayé de réfléchir pourquoi ne l'a-t-il pas fait. En fait, il n'a pas dit « Papa, je veux ou je voudrais de la colle », il a dit « Il me manque ». Le pauvre en esprit est celui qui reconnaît ce qui lui manque. Parfois, nous prions « Il me manque la foi, Seigneur augmente ma foi, Seigneur augmente mon amour ». Alors qu'il faudrait plutôt se présenter en disant « Seigneur, il me manque la foi, il me manque l'amour ». Le pauvre en esprit reconnaît qu'il est un mendiant spirituel. Avec l'orgueil naturel de l'homme, ce n'est pas toujours une évidence, mais c'est pourtant de cela que le Seigneur parle. Je reconnais, oui, que dans ma vie j'ai des besoins, des grands besoins, et j'expérimente jour après jour que oui, le Seigneur a raison, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, il y a dans ces béatitudes, je dirais, des paradoxes. Même si le terme « heureux », qui, dans notre compréhension générale, nous parle d'un état de bonheur, ce n'est pas nécessairement la pensée de la traduction « heureux ». La version Chouraki, par exemple, version très littérale, enfin très proche du texte, dit « en marche ». Il y a donc dans l'idée de ces heureux une notion de dynamique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui restent statiques dans ce qu'ils entreprennent. Il y a une progression. C'est-à-dire qu'ils sont heureux, mais qu'ils n'ont pas nécessairement atteint l'objectif de ce que le Seigneur attend. Et je dois reconnaître que la béatitude suivante, « Heureux les affligés, car ils seront consolés », me paraît d'un côté paradoxal s'ils sont heureux en étant affligés, mais d'un autre côté, la réponse du Seigneur, car ils seront consolés. Alors, je me suis souvent posé la question, est-ce que pour être consolé, il faut être affligé? Il semble que oui. Est-ce qu'il nous arrive de passer par un moment de tristesse? Est-ce que nous sommes chagrinés? Ma grand-mère était une femme, c'est elle qui nous a fait connaître l'Évangile, une femme positive, elle était à l'armée du salut. Oh, pour elle, il n'y avait jamais de problème, il fallait aller de l'avant, un vrai soldat. Mais je dois reconnaître que si j'avais à l'époque une dizaine d'années, Ben, depuis ce temps-là, quand même, il me semble que ma compréhension de la vie, heureusement d'ailleurs, a quand même évolué. Les affligés, je constate parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je vous livre mon expérience, de me demander comment je fais pour ne plus avancer. Je suis plus en marche. Et je m'aperçois en fait que je m'arrête souvent au même problème. Dès qu'il surgit, je suis en difficulté. Mais nous pouvons être affligés, non pas seulement, je dirais, dans une certaine introspection, mais en voyant la tristesse des autres. Et puis, puisque nous sommes en marche, ça signifie que nous ne pouvons pas être tristes parce que nous stationnons sur notre passé. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous marquent, elles sont présentes. Nous avons du mal à passer outre. Et bien souvent, nous avons fait le frein à main à cet emplacement, ce qui produit en nous une certaine tristesse. Mais si le Seigneur nous dit « heureux les affligés », ça veut dire qu'ils existent bien, ces affligés, et que en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à craindre les larmes. Non pas seulement parce que le Seigneur lui-même a pleuré, mais parce que certaines situations, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont vécu l'horreur, par exemple, dans les conflits, et les larmes leur sortaient naturellement des yeux. Jésus veut nous signifier aussi que la souffrance n'est pas un ennemi. Et que les moments pénibles qui nous arrivent parfois de passer n'échappent pas à sa souveraineté. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas fortuit. La souffrance, semble nous dire Jésus, n'est pas un malheur parce que Dieu consolera. Nous avons souvent, il faut bien le reconnaître, dans notre cheminement besoin d'une main secourable. Parfois simplement une main dans le dos qui semble nous dire « je suis avec toi ». Ce qu'il y a aussi, je m'attarde un peu sur cette béatitude, c'est qu'en réalité, si nous sommes affligés, que nous le reconnaissons, ça veut dire que le Seigneur nous donne le droit de nous exprimer. Nous sommes venus ce matin pour louer le Seigneur. Bien sûr, nous nous sommes exprimés dans un sens. Mais face aux circonstances de la vie, nous avons aussi le droit de réagir et d'exprimer au Seigneur ce que nous ressentons. Jérémie s'est répandu devant le Seigneur. À certains moments, on pourrait même penser qu'il était maladroit dans sa façon de parler à Dieu, mais il s'est exprimé selon la réalité de son cœur. Habacuc pareil, je crie à la violence et tu ne réponds pas. Peut-on s'attendre à cela d'un prophète? Oui. Les affligés peuvent parfois être des gens qui passent par une crise profonde. Cela semblait invraisemblable, inenvisageable, il y a encore quelques années, quoi, un chrétien en dépression, mais c'est impossible. Et puis à côté de cela, il a fallu développer ce qu'on appelle communément de la relation d'aide, pour ne pas aller plus loin. Alors je me pose aussi la question, mais pourquoi, Seigneur, dois-je passer par des moments d'affliction? Et à quoi vont-elles m'avancer? Est-ce qu'elles vont m'aider à progresser? En tout cas, je l'espère. Là aussi, j'ai entendu il y a quelques années un exemple qui m'a beaucoup aidé, je dois le dire. Vous avez déjà vu la croissance, enfin, je sais que vous n'allez pas rester là-devant, la croissance d'un épi de blé. C'est extraordinaire. Selon l'espèce de céréales, elle commence à croître, et puis après 10 à 12 centimètres, la croissance s'arrête. et se forme sur l'épi comme une sorte de nœud, plus épais que la tige. Ensuite, l'épi continue à grandir, forme de nouveau, quelques centimètres plus haut, la même chose, jusqu'au moment où l'épi est arrivé à maturité. Et là, ce sont justement tous ces petits nœuds qui permettent à la tige de ne pas rompre. Et là, je me suis dit, oui, ça c'est quelque chose de négatif dans un certain sens, mais de positif dans l'autre. Le moment d'affliction, de crise, est pour nous l'occasion d'un approfondissement dans certains domaines de notre vie que nous avons mis sur le côté. Peut-être parce que cela nous embarrassait ou parce que nous pensions que c'était inutile, mais le Seigneur nous rappelle ces choses qui passent parfois par la souffrance, l'affliction. Et ce qui peut paraître dans nos vies comme un arrêt de croissance, est en réalité un moment où le Seigneur construit et consolide nos vies. Et puis le Seigneur dit, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Oh, il y a différentes versions, il y a heureux ceux qui sont doux. Et j'ai relevé que, en fait, ceux qui sont doux, ce n'est pas nécessairement ceux qui cultivent des sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Heureux ceux qui sont doux, mais le Seigneur ne dit pas heureux ceux qui sont mous. Heureux ceux qui sont humbles, c'est-à-dire qui reconnaissent d'un côté leur manque et qui sont authentiques devant Dieu. Le Seigneur nous appelle à gérer les conflits, à ne pas éviter le conflit dans nos vies. Parfois, nous pensons que être doux ou humble, c'est tout accepter sans vouloir rien régler. Heureux ceux qui sont doux parce que la dureté dans nos cœurs s'installe sur l'assurance des choses qui nous apparaissent naturelles. Une belle situation, de l'argent, et puis toutes sortes d'avantages qui, semble-t-il, nous confortent et qui sont parfois qu'une illusion. Heureux les miséricordieux. Les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui éprouvent de la miséricorde, de l'amour, de la sympathie, de l'empathie. On sort d'un terrain fragilisé par l'encouragement. L'encouragement, c'est pas nécessairement dire « Ah, c'est bien ce que tu fais », non. La véritable relation d'être n'est pas de prendre quelqu'un en remorque, mais de marcher à ses côtés en partageant ce qu'il vit. J'ai aussi lu, peut-être le connaissez-vous, Larry Crabb. C'est un garçon qui a écrit pas mal d'ouvrages sur la relation d'être, sur la psychologie chrétienne. C'est intéressant pour ceux, bien sûr, qui s'y intéressent. Mais savez-vous que Larry Crabb, au début, était un garçon qui avait du mal à mettre 5 mots l'un à côté de l'autre. Il était à l'université et chaque année, en fin d'année, un élève était choisi au sort pour parler devant le parterre des autres étudiants. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est tombé sur lui. Il n'en a pas dormi pendant des jours. Et puis, il a dû monter au moment choisi, près du directeur, qui lui a laissé la parole, et qui a très vite compris le drame que Larry vivait. Larry Crabb était un chrétien sincère. Et dans l'église où il était, là, aux États-Unis, on a eu un objectif, c'est de mettre les jeunes dans le coup. Il devait prier pour la Sainte Cène. C'était un moment épouvantable, il a tout mélangé. Sa prière n'avait aucun sens. Et il s'est dit en lui-même, c'est fini, je ne ferai plus jamais rien. Ben, je peux le comprendre. Et quand le culte a été fini, il n'avait qu'une idée en tête, c'est de prendre la porte et de disparaître. Quand quelqu'un l'a attrapé, un des anciens de l'assemblée l'a attrapé, lui a dit, Larry, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras pour le Seigneur. Et ça a bouleversé sa vie. Bah, j'allais dire aujourd'hui, mais cela fait des années, Larry Crabb est devenu un conférencier. Par la grâce de Dieu. Ce qui signifie que s'il faut être miséricordieux, ça veut dire que la perfection n'est pas de ce monde. Et le monde n'attend pas de nous que nous ne fassions pas de fautes, pas d'erreurs, mais que nous soyons vrais, c'est-à-dire que nous reconnaissions ces situations. La progression spirituelle peut parfois nous échapper parce que nos critères ne sont pas les bons. Il peut arriver que nous nous situions par rapport à certaines choses qui fait de nous quelqu'un de spirituel. C'est ce que Paul dit aux Galates, nous qui sommes spirituels. C'est un peu ironique, de qui parle-t-il? Le problème, c'est que l'on prend du grade à ses propres yeux et que l'on perd la notion de ce qu'est un serviteur de Dieu. On se croit devenu trop grand pour faire des petites choses. En réalité, c'est parce qu'on est trop petit pour en faire de grandes. Et puis le Seigneur, je regarde l'heure, vous me donnez encore combien de temps? Ah, personne n'ose se mouiller là, hein? Non, mais habituellement vous finissez à quelle heure? À midi? Non, non, mais j'ai compris, hein. Je suis parfois auditeur aussi, donc... Non, non, mais sinon, j'ai de la matière, hein, mais... Voilà, on va essayer de dire l'essentiel. Le Seigneur maintenant dit autre chose. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il fait donc un parallèle avec les besoins naturels. Ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je dois bien reconnaître qu'il y a des moments, oui, je ne sais pas si c'est un privilège ou pas. Je me mets à table et je mange parce que c'est l'heure, pas parce que j'ai faim. Ben, je dis, il faut bien manger, donc je mange. Mais ici, le Seigneur parle de l'appétit spirituel. Alors, faut-il attendre pour se nourrir spirituellement que la faim vienne? Ben c'est évident, il y a les deux grands axes. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Voilà ce qui peut me nourrir, assouvir ma faim spirituelle. Mais qu'est-ce qui me fait apprécier la nourriture, justement? Ben c'est d'avoir faim. On est sélectif quand on mange. De préférence, on mange ce qu'on aime. Mais si vous avez vraiment faim, mon beau-père me rappelle souvent que pendant la guerre, il a su ce que c'était que de manger n'importe quoi parce qu'on avait faim. Alors dans le domaine spirituel, comment cela se passe-t-il? Qu'est-ce qui va créer en moi une faim et soif? Est-ce que je suis d'accord de traverser un désert avec Dieu? Ben, c'est pas chez moi que j'apprécie l'eau. Je peux en acheter des bouteilles, j'ai l'eau courante. Mais je me dis, si je suis dans le désert, c'est là que je vais apprécier l'oasis. Autrement, ça ne signifie pas grand-chose pour moi. C'est donc quand je suis d'accord de laisser Dieu agir dans ma vie et de me mettre, encore une fois, en manque ou ont besoin de certaines choses, que j'apprécie ce qu'il me donne. Et puis si l'appétit s'assouvit par la lecture de la Bible, là aussi nous pouvons parfois la lire, je ne vais pas dire avec une mauvaise intention, mais dans un mauvais objectif. Est-ce que je la lis pour la connaître ou pour connaître davantage celui qui a écrit les lignes? Et puis j'aborde une dernière partie, le comportement social du disciple. C'est-à-dire, encore une fois et toujours, comment tout ce que j'ai acquis en lisant la parole de Dieu, en priant, dans mon expérience qui m'a appris, on l'espère, beaucoup de choses et qui vont me permettre d'aborder les circonstances que le Seigneur placera devant moi. Certains enfants de Dieu mettent la charrue avant les bœufs. Ils pensent que c'est l'action qui est primordiale. Or que le Seigneur nous laisse entendre que c'est notre relation avec lui. Si nous n'avons pas cette base, nous pourrons penser que nous sommes bien avancés spirituellement parce que nous faisons certaines choses. Mais nous ne sommes pas étonnés, nous lisons dans les évangiles que le Seigneur se retirait dans des lieux déserts ou se mettait à l'écart pour prier. C'était la relation avec son Père qui était la plus importante. Et puis seulement, sur le terrain, il accomplissait l'œuvre de son Père. Et puis, il nous est parlé aussi de pureté. La pureté. Ben, nous ne sommes pas purs de nous-mêmes, nous sommes purifiés. C'est la communion avec le Seigneur qui nous fait progresser dans ce chemin. Et puis, nous avons besoin de suivre un modèle que les évangiles nous montrent. Nous sommes purifiés par le pardon. Le Seigneur nous donne la possibilité de nous mettre en règle dans 1 Jean 1:9 si nous avons péché. Nous devons confesser, et le mot confesser, là, va dans le sens de homologuer, c'est-à-dire nous mettre dans les normes, nous remettre en règle. Je suivrai dans ma vie spirituelle, je reçois du Seigneur les bonnes choses, ce qui me semble humainement parlant de bonnes choses, et je reçois aussi ce qui parfois me fait mal, et que je sais qu'ils font partie du bagage que je dois porter avec moi, si je veux correspondre au modèle. Et puis je termine, heureux ceux qui procurent la paix. Il y a des pionniers de la paix, et puis il y a ceux qui se battent pour la paix, ça peut paraître paradoxal. Une présence paisible d'un homme et d'une femme de paix peut faire disparaître les tensions. Oh, j'ai travaillé en entreprise, je sais ce que c'est que les tensions. Et il y en a, vous savez, les spécialistes qui savent faire mousser les situations, justement. On est parti parfois de pas grand-chose et puis ça prend de l'ampleur, parfois difficilement contrôlable. Et on est heureux dans ces moments-là de trouver quelqu'un capable de ramener la paix. Peut-être allons-nous penser que c'est un ministère particulier pour certains doués, non. C'est un ministère pour tous là où nous sommes un agent de paix. La paix passe dans les conflits humains par la réconciliation, par le pardon. En fait, le Seigneur, dans les béatitudes, veut nous amener non pas au Sinaï, c'est-à-dire à la loi contraignante, impossible à appliquer naturellement, mais il veut nous amener à la croix, tout simplement. Nous avons chanté la croix tantôt. Et il faut bien reconnaître que tout l'enseignement du Seigneur, toute sa signification, toute sa profondeur, ne prend de sens que dans cet exemple que le Seigneur nous donne, où il réunit, en définitive, toutes les qualités que Dieu attend de chacun. Un idéal, par définition, est un objectif impossible à atteindre, mais c'est souvent en visant haut que l'on arrive finalement à un certain niveau. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il nous connaît personnellement, il sait ce dont nous sommes capables, il sait de quoi nous sommes faits, c'est l'enseignement de base de la parole de Dieu. Mais si nous voulons avancer, il nous faut être immanquablement en marche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.